Merci Luc. Allez, on est à l'antenne, on est reparti.
On est en pleine Coupe du Monde, je cite Nicolas Anelka.
C'est oui.
Nicolas qui ?
Pourquoi il a fait des Coupes du Monde lui ?
Bah, la Coupe du Monde 2010, Nice-Na, le bus.
C'était du foot ?
Raymond Domenech.
Ah, mais c'était pas du foot ça ?
Non, je crois
c'était
pas.
C'était du transport.
Du théâtre.
Du théâtre.
Ah oui, déjà à l'époque.
Salut Fab.
Bonjour.
Alors Fab, comment ça va ? Cette émission s'est bien passée ?
Ça va, match nul, donc correct, normal. On s'y attendait un peu, hein, c'est truqué.
Oui, bon, ça a été truqué, hein, c'est ce qui me semblait.
Comme tous les combats de boxe.
Ouais. Salut Dave.
Hello.
Oh Dave, tu es de retour.
Oui.
Ça fait plaisir, on t'avait perdu les deux dernières émissions.
Ah bah ouais, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui construise des stades en Amazonie.
Exactement. Oui.
Coupons du bois. Là, il va construire tous les stades de la Coupe du Monde.
C'est pour ça que ça a pris du temps musclé. Aussi. Hein.
Ah bah oui, c'est pour ça qu'ils sont pas
tu les as finis un peu tard, je trouve, les sièges, là, les derniers.
Non, j'avais un vol Manaus-Mande à prendre.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Salut Luc.
Bonjour tout le monde.
Allez Luc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, vous savez que c'est la fête de la musique, alors on fait grande place à tous les groupes amateurs du monde et de la terre entière, de France et de partout. Donc on va parler d'un groupe un petit peu amateur quand même. We get the funniest looks from everyone we meet. Hey, hey, we're the monkeys. People say we're monkeying around. But we're too busy singing to put anybody down. We go where we want to, do what we like to do. We don't have time to get restless. There's always something new. Hey, hey, we're the monkeys. And people say we're monkeying around. But we're too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friendly. Come and watch us sing and play. We're the young generation, and we've got something to say. Just look over your shoulder. Guess who'll be standing there? Hey, hey, we're the monkeys. And people say we monkey around. But we're too busy singing to put anybody down. Wow. One time.
Mais c'est sympatoche comme tout ce petit groupe, Luc.
Ils se sont présentés eux-mêmes, ils s'appellent les Monkees. C'est un groupe, alors c'est un groupe qui a une histoire un petit peu originale parce qu'à la base, c'est une série télé américaine formée de quatre jeunes gens désireux de réussir. On est dans les années 66. 65, ouais, pardon. Et donc c'est la chaîne américaine NBC qui veut lancer une série qui évoque, alors ça va être compliqué ça va être compliqué à expliquer quand même, à faire comprendre aux gens, c'est que c'est une série qui évoque l'esprit de Hard Day's Night des Beatles.
Voilà, l'esprit, c'est quatre garçons dans le vent. En gros, ils se sont dit, voilà, il y a quatre garçons sympathiques, rigolos, le monde est à leurs pieds, tout ça. On n'a qu'à faire pareil aux États-Unis, il n'y a pas de raison. Hein.
Voilà, exactement. Donc, c'est de là que le producteur, en fait, il a vu le film des Beatles, il s'est dit, ouais, on va faire un truc, un concept, et on va en faire une série télé avec des jeunes musiciens, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça ? Ils vont lancer, parce que les Monkees n'existent pas du tout, c'est pas un groupe qui existe, c'est un... Finalement, ça va être le premier boys band un petit peu de l'histoire. J'ai entendu ce matin Guillaume et les filles qui parlaient de Texat.
Ah, t'écoutes hein, ça, toi
ça, Guillaume, voilà. C'est l'ancêtre de Texat, c'était les Monkees.
Et c'est l'ancêtre voilà. De Julie Lescaut aussi.
D'une certaine série manière. Télé. C'est ça. Ce qui leur valait d'ailleurs voilà. À l'époque le surnom de Prefab Four. Les quatre préfabriqués, les Fab Four, c'était les Beatles.
Au Fab Four. Mais alors, on verra un peu plus tard que finalement, ce qui peut paraître être une farce au départ...
va être quelque chose de beaucoup plus crédible. Même si, donc, on le disait au départ, ils ont personne. Ils ont Mickey Dolenz, qui est le premier à s'embarquer dans l'aventure, qui, lui, est un acteur. Il a déjà joué, dans des séries. Pour le reste, ils vont passer une petite annonce dans un...
Variety,
exactement.
Comme Dave, il a passé une petite annonce, cherche femme,
c'est ça.
Prête à tout.
Cherche intervention sur émission de radio.
Cherche toujours.
Je prends pas cher. Voilà, donc la musique, l'annonce dit... quelle folie, il y a des auditions pour des folk, des musiciens de folk et de rock, des chanteurs pour d'un rôle, musiciens et chanteurs pour un rôle d'acteur dans une nouvelle série télé qui fait avec quatre garçons extraordinaires entre 17 et 21 ans. Voilà, bon, il faut avoir du courage pour travailler et venir pour les interviews. Alors, en fait, pour la petite histoire, il n'y en a qu'un qui va voir la petite annonce. Les trois autres vont être regroupés.
Recruté,
merci. Un peu par bouche à oreille. Il y a 437 personnes qui répondent à la petite annonce. Finalement, ils vont en garder 4.
Il y a du beau monde d'ailleurs qui
est
postulé à l'époque.
Il y a Stephen
Stills, voilà, le futur Crosby, Stills, Nash & Young ou Buffalo Springfield, qui est refusé, paraît-il, à cause de sa dentition qui n'est pas terrible.
Voilà, et du coup, qui en parle à un de ses potes. Alors, je crois que, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est à Peter Tork qu'il en parle.
Oui, tout à fait, c'est Peter Tork.
Voilà, il en parle à Peter Tork, il dit tu devrais essayer le truc, et il se trouve que Peter Tork, il va être pris avec donc Mickey Dolenz, qui est un petit peu l'acteur de la bande,
Michael, beau gosse, ils sont censés l'être les quatre, après selon les canons de l'époque, on va dire.
Voilà, après ils sont très Beatles, hein, la coupe de cheveux, voilà, il y a beaucoup de trucs.
Puis le but, c'est de sourire un peu tout le temps, de faire des blagues.
Voilà, donc Mickey Dolenz, Peter Tork, Michael Nesmith et le petit dernier, David Jones, pas le pirate des Caraïbes, mais le dernier membre des Monkees. Il faut savoir que dans l'histoire, les Monkees, sur les quatre, ils n'ont pas été recrutés tous pour leur grande qualité musicale. Alors, la légende veut qu'ils ne savaient pas jouer. C'est pas tout à fait vrai. Ils savaient jouer. Il y en avait un qui jouait du banjo. Il y en avait un qui...
Peter Tork,
jouait du banjo. Il jouait très bien du banjo.
Dolenz était acteur. Il lui demande de se mettre à la batterie. Bon.
Voilà. Alors, ça va devenir un peu compliqué parce qu'ils ont un guitariste. Un mec qui sait jouer de la batterie. Un mec qui sait jouer de la basse. Et un mec qui sait à peu près chanter, mais vaguement jouer de la guitare, donc Mickey Dolenz. Mais comme finalement, ça va être plus une série qu'un groupe de musique, celui qui connaît la guitare va jouer celui qui connaît la batterie va jouer de la basse, celui qui connaît la guitare va jouer de la batterie. Enfin bref, ils vont tout mélanger.
Et puis accessoirement, sur leur disque, ils vont être interdits de jouer, tout simplement.
Et
juste chanter.
Celui qui joue de la batterie et qui va se retrouver au chant comme un petit peu comme Phil Collins finalement, c'est absolument pas jouer de batterie. Voilà, donc c'est un peu cet équipage.
Dave, tu suis, c'est bon.
C'est du brick et de broc.
C'est un peu de brick et de broc.
On pourra résumer tout ça après.
Oui, on aura un surprise à la fin.
Non, en gros, ils ont recruté des types qui savaient jouer, d'autres qui savaient pas jouer, mais au final, ils leur demandent de pas jouer.
Voilà, c'est surtout
qu'ils
ça.
Qu'ils savent jouer ou pas,
un peu comme
interdit
Bertrand.
De jouer. Il y a un peu l'idée. Sauf qu'ils chantent quand même. Ils chantent tous les quatre.
Alors, si tu veux, ils chantent tous les quatre. Et par contre, derrière, on va leur mettre des vrais musiciens qui vont.
Pas n'importe lesquels. Hein. Des gros musiciens de l'époque. Leon Russell, Ray Cooder, Neil Diamond, Neil Young.
Et puis, il y a beaucoup quelques membres des Byrds qui ont joué.
Oui, des ex-membres des Byrds, tout à fait. Enfin, musicalement, voilà, le niveau est haut. Ils leur mettent pas n'importe quoi dans les pattes.
Sauf qu'eux, ils n'ont pas le droit de jouer. Ils ont le droit de chanter. Si vous avez vu, parce que c'est repassé à la télé. Il y a quelques années. En plus, niveau comédie, c'est un petit peu. John Lennon a dit que c'était un peu les Marx Brothers. C'est un peu ça. Ça vole pas.
C'est censé être sympa. Hein, c'est
dommage. C'est plutôt sympa. Enfin, ça vole pas très très haut. C'est généralement du playback qui est pas super bien doublé. Donc voilà, c'est un peu cette aventure de Brick et de Broc qui est lancée donc par NBC en 66. Mais ça va marcher parce que la série elle marche super bien. Et pour se faire une idée un peu de ce que ça donne musicalement, on va écouter un premier morceau qui s'appelle Last Train to Clarksville. Take the last train to Clarksville and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30 'cause I've made your reservation. Don't be slow. I'm a no-no.
Le dernier train pour Clarksville.
Il ne faut pas le rater celui-là.
Oui, il ne faut pas le rater. Et ils ne l'ont pas raté. Donc, c'était leur premier single en 66 et ça a cartonné d'entrée. Alors, le premier album a cartonné, le premier single a cartonné, la première émission télé a cartonné, tout a cartonné. Et pour bien comprendre pourquoi ça a cartonné, il faut comprendre à quel point ils avaient assuré leur affaire en amont. On en a parlé au niveau du recrutement. Bon, ça paraissait un peu bizarre. Ils vont par petite annonce, puis finalement, ils recrutent par bouche à oreille. Ils ne veulent pas des musiciens, mais ils prennent des musiciens et puis ils leur interdisent de jouer. Ça paraît pas trop cohérent, mais derrière il y a une grosse machinerie. En fait, ils font appel aux meilleurs compositeurs de l'époque, des compositeurs de l'ombre, je veux dire, qui composent tube sur tube, Jerry Goffin et Carole King par exemple, Neil Diamond qui est pas encore dans sa carrière solo et qui compose pour les autres, et donc ces gens-là leur composent des tubes sur mesure, quoi, pour leur voix, des tubes vraiment dans l'air du temps, genre il y a un single des Beatles qui marche, extrait de Rubber Soul par exemple, dans la semaine, il faut réagir, et la semaine qui suit, les Monkees sortent un single parfaitement dans l'esprit, qui colle à l'air du temps, et du coup ça cartonne à chaque fois. Ils ont prévu le coup aussi au niveau marketing, c'est en ça que c'est important à l'époque, parce que les Beatles, certes il y a eu la Beatlemania qui a déferlé en 63-64, notamment aux États-Unis, mais tout n'était pas planifié réellement, c'était un peu l'effet de surprise, on ne savait pas, le mouvement pop à l'époque, on ne prédisait pas ce genre de choses, et les petites figurines et tout, c'est venu après finalement. Là, ils préparent en amont, avant même de lancer le premier épisode, qui sera en septembre 66, tout l'été 66, ils vendent déjà les figurines des Monkees, ils vendent du savon Monkees, du shampoing Monkees, des gâteaux Monkees.
Alors que personne ne les a vus. Hein.
Alors que personne ne les a vus et entendus,
si,
il y a tout.
Si, il si, y a eu une première polémique, parce que déjà, je crois qu'on est ça en mai 66, c'est le Washington Post ou le New York Times, je ne sais plus lequel des deux, qui sort un article en disant qu'en fait c'est un peu une fumisterie, parce que les mecs, bah justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que finalement c'est pas des vrais musiciens.
Bien sûr, mais bon, bah, finalement voilà, à l'époque il se trouve que le grand public peut-être ne lit pas cet article là ou n'en a cure, parce que il voit débouler les Monkees et il se dit ça c'est bien, tout simplement musicalement, parce qu'ils sont sympathiques, parce que la série télé, on en parlait tout à l'heure, elle vole pas haut, mais dans les standards de l'époque elle est plutôt sympathique. Enfin voilà, il faut pas juger selon les critères d'aujourd'hui sur le montage d'une émission ou les blagues. Voilà, c'est vraiment vu comme la réponse américaine aux Beatles. Mmh. Et ça marche d'entrée de jeu, tout se met en route. Alors, bon, assez vite, on l'a dit, les musiciens, certains se plaignent de ne pas jouer, mais au début, en tout cas, ils disent rien. Ils disent rien aussi pourquoi, parce que tout simplement, ils ne font pas de concert au début. Au tout début, ils ne jouent pas sur scène, donc ils n'ont pas à montrer leur faiblesse ou autre.
Au départ, on est juste sur de la comédie pure
et
simple. De la série de la série américaine, quoi, qui est vraiment dans tous ses standards. Alors, peut-être une différence sur d'autres séries, c'est qu'en fait, ce qu'on verra tout à l'heure, c'est qu'ils bossent vraiment. C'est-à-dire que c'est pas genre on enregistre à la chaîne des trucs où il n'y a même pas besoin, les soap-opéras, on n'a pas besoin de connaître les textes. Il y a un vrai travail d'acteur et de mise en scène sur la série.
Et d'écriture, même.
Et d'écriture, ce qui fait que, du coup les Monkees n'ont pas vraiment le temps de peaufiner leur musique à eux.
Oui, voilà, parce que bon, on l'a dit tout à l'heure, il y en a qui composent ou enfin qui jouent dans leur coin. Ils composent aussi, donc il y a notamment Mike Naismith qui, avant d'être recruté par les Monkees, a déjà sorti un album à son nom propre et qui a composé pour d'autres, notamment Linda Ronstadt. Il a fait des mini-tubes par-ci par-là en tant que compositeur. Donc ils sont finalement aptes à jouer et à composer leurs morceaux, ce qui viendra plus tard. Mais là, on n'y est pas. On va peut-être écouter un autre morceau, leur plus connu, écrit par Neil Diamond, donc à l'époque où ils se font encore composer leurs morceaux. C'est « I'm a Believer ». Was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. Get his pain. When I needed sunshine, I got rain. Well, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. If I saw her face. Now I'm a believer.
En fait, on a suivi le plan marketing des Monkees. On a fait une annonce pour récupérer Dave pour faire monter l'Audimat et ça a marché. On est un peu les Monkees des années 2014. Les Monkees
et Luc a été recruté comme ça aussi, je crois.
Absolument. Mais je ne joue absolument. Si, je joue de la guitare. Enfin, j'ai une guitare chez moi.
On recrutait des basketteurs et puis voilà, on leur a demandé de ne pas jouer de guitare. Bon,
c'est ça.
Et Dave est arrivé.
Dave, tu aimes les Monkees?
Oui, je connaissais pas. Donc c'est...
Tu connaissais pas ?
Tu viens dans cette émission et tu ne connais pas les Monkees. Non,
mais je pensais qu'on parlait des Marquises à la base.
Oh, ben oui, alors en même temps, t'as un t-shirt Otis Redding, alors là, respect.
Tu pensais donc, à venir normal. À une émission zoologique.
Saul.
Ah ben oui, sur les singes. J'ai bossé une semaine pour justement
pour
sur
rien,
ça.
Finalement.
Mais alors, quand tu dis Marquises, tu parles des îles Marquises ou des Marquises, le groupe ?
Voilà, le dessert.
Ah, d'accord.
Le dessert, oui, bien sûr.
Alors, Luc, c'est un plan sans accro, ces Monkees.
C'est exactement un plan sans accro. On est en 66. Donc, sort le premier single qu'on a écouté tout à l'heure, Last Air.
Et Shell Beatles, 66, Fab.
Rubber Soul et après Revolver.
Très bien. Continue, Luc, excuse-moi.
C'est un morceau, il va passer 13 semaines. On va sortir donc le premier album. En gros, les albums, ils sont en fonction de la série. C'est des chansons qui sont interprétées pendant la série et qui sont regroupées ensuite pour faire un album. Le premier album s'appelait The Monkees, tout simplement. Il va rester 13 semaines en tête des charts américains. Numéro 1, c'est pas mal. Et puis, en tout, il va être classé pendant 78 semaines. Dans les classements américains. Et encore mieux, c'est que 20 ans plus tard, quand les Monkees vont se reformer et vont retourner, il va ressortir également et rester 20 semaines dans les classements américains. Preuve que finalement, ça a quand même du succès. On a à une époque où il y a du monde en face. Hein.
Ah bah, en face, il y a les Stones, il y a les Beatles, il y a les Who, les Kings, il y a tout le monde.
On est d'accord qu'on parle des classements américains. Peut-être que si on avait fait les classements anglais à l'époque... ce serait peut-être
bizarrement, les Monkees ont connu aussi du succès en Angleterre. Très vite, ils ont été adoptés de l'autre côté de la Manche parce qu'ils aimaient bien cet humour-là quand même, cet humour un peu Marx Brothers. Il y aura les Monty Python 2-3 années plus tard et c'est vraiment le même esprit. Donc finalement, ça leur plaît aussi, quoi.
Oui, parce que c'est très potache en plus, hein, les Monkees. Alors voilà, ils ont chacun leur petit rôle. Donc, Mickey Doolen, c'est Mickey le facétieux. Nesmith, c'est Mike le débrouillard, un peu sérieux. Peter Torx, donc c'est Peter le naïf, et David Jones, c'est le beau ténébreux, là, celui qui dit pas grand chose et qui est planqué derrière son bonnet.
Comme moi.
David Jones qui s'appelait David, voilà. comme notre Dave. Hein.
Comme notre Dave.
David Jones, comme le vrai nom de David Bowie, et qui à la même époque se produisait sous le même nom Angleterre de David Jones, ses premiers enregistrements, et qui a
télescopage.
Un peu changé son nom aussi pour ne pas être confondu avec le chanteur principal des Monkees.
Oh la honte.
Comme quoi ils étaient connus.
Donc voilà, les tubes s'enchaînent au fur et à mesure que la série progresse et que la série se poursuit. Sauf qu'il y a un petit hic, c'est que les petits Monkees, ils disent c'est super, c'est génial, la série marche super bien, mais bon, nous on est quand même des musiciens et on veut monter sur scène, on veut faire notre vraie musique. Et là, ça commence à devenir un peu compliqué. Parce que finalement, c'est pas ce qu'on leur demande du tout. Nous, on leur demande, les producteurs, on leur demande de la fermer et de jouer la comédie. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en même temps, bon, bah, ils sont pas tous maîtres de leurs instruments. On l'a vu, Mickey Doolen, il a jamais touché une batterie de sa vie. Il prend des cours un peu par-ci par-là parce qu'ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps de bosser finalement leurs morceaux. Ils rentrent en studio pour enregistrer les voix, la musique, c'est d'autres qu'ils font. Mais pourtant, ils vont réussir à monter une tournée, la première tournée des Monkees, qui se passe bien et qui en plus servira de support pour les épisodes de la série. Donc on est toujours quand même dans le marketing, c'est-à-dire qu'on leur laisse, on dit ok, c'est bon les gars, vous allez pouvoir monter sur scène, très bien, vous allez faire votre truc, mais en revanche, on utilise ce que vous faites sur scène pour alimenter la série.
Et alors pour la petite histoire, il y a quelque chose qui va aussi fâcher un petit peu leurs producteurs, en dehors de leur velléité de jouer leurs instruments, c'est que lors de cette première tournée des Monkees, il y a un des Monkees, Doolens, donc à nouveau, qui s'est un peu entiché d'un nouveau guitariste gaucher de Seattle, qui n'est autre que Jimi Hendrix, qui débute tout juste et vraiment il trouve ça formidable, et donc il invite à faire la première partie des Monkees aux États-Unis, Jimi Hendrix. Et ça plaît pas beaucoup aux producteurs, parce que le public des Monkees, quand il entend la première partie, il se dit qu'est-ce que c'est que ce truc ?
C'est vrai qu'il y a de gros soucis avec...
Ça durera deux semaines, je crois, à tout casser. Ouais. Il va se casser, Jimi Hendrix, parce que le public n'est pas adapté. Il n'est pas prêt, on va dire.
C'est-à-dire qu'il y a un peu une antinomie entre le début du Flower Power, du Summer of Love, etc. Toute cette mouvance hippie qui naît et dont Jimi Hendrix va être un des porte-parole. Et puis c'est ce côté un petit peu commercial de cette musique pop de interprétée par les Monkees. On va peut-être écouter un nouveau morceau
qui est issu du troisième album. Alors le deuxième, on l'a pas dit, hein, après The Monkees, leur deuxième album, il s'appelle More of the Monkees.
Plus des Monkees.
Il est aussi numéro 1. Il reste 18 semaines à numéro 1, soit plus que le premier, et il sort 4 mois plus tard. Donc, c'est costaud, quoi. C'est enchaîné. Quand on dit qu'ils ont pas le temps, on simule pas.
Et donc là, en gros, les Monkees, c'est 8 albums en 3 ans.
Quelque chose comme ça. Tous les 4, 5, 6 mois, ils sortent un album qui fait un carton. Et là, c'est un autre single issu du troisième album Headquarters qui fait un carton. Et qui s'appelle Randy's Chaos Gate. She's a wonderful lady and
which is mine, all mine. And there doesn't seem a way that she won't come and lose my mind. It's too easy humming songs to a girl in yellow dress. It's been a long time since the party, and the room is in a mess. The four kings of EMI are sitting stately on the floor. There are birds out on the sidewalk and a valet at the door. He reminds me of a penguin with few and plaster hair. There's talcum powder on the letter, and the birthday boy is there. Why don't you cut your hair? Why don't you live up there? Why don't you do what I do, see what I feel when I care? Now they've darkened all the windows and the seats in Naugahyde. I've been waiting for an hour, I can't find a place to hide. It's not easy trying to tell her that I shortly have to leave. Why don't you yell at me? Why don't you stop and see? Why don't you hate who I hate? Kill who I kill to be free?
Ta-ta-ta-ta-ta.
Et oui, ta-ta-ta-ta-ta. Randy Scouse-Gitt, qui, pour la petite histoire, a un lien avec les Beatles, toujours échelle Beatles. C'est les Monkees sont allés en Angleterre, ils ont été accueillis par les Beatles lors d'une petite fête organisée en leur honneur, vu qu'on a dit qu'ils les aimaient bien. Et ils ont sorti cette chanson après, qui était un peu dans l'esprit pop anglais de cette période-là, juste après Revolver. Et d'ailleurs, il y a Sgt Pepper qui va suivre et qui va détrôner le troisième album des Monkees, qui s'appelle Headquarters, qui du coup est resté moins longtemps numéro 1. Il est resté qu'une semaine, parce que forcément, quand il y a Sgt Pepper qui arrive derrière, c'est un peu compliqué.
Avec la stéréo.
Ah ben oui, avec la stéréo, on peut pas lutter. Hein.
C'est sûr.
C'est difficile. Une petite traduction, peut-être.
Ah, jingle.
Traduction, Fabien. Faut vraiment qu'on fasse un vrai jingle un jour.
Avant que l'émission s'arrête, ouais, ce serait bien. Donc, je vous la fais courte, hein, je vous fais pas toute la chanson, mais en gros, l'esprit est là de la chanson qu'on vient d'entendre. C'est une femme merveilleuse, hein, et elle est à moi, tout à moi. Il ne semble pas d'une manière qu'elle ne vienne pas perdre mon esprit. Alors, si quelqu'un peut vraiment traduire cette chanson, cette phrase à l'endroit, merci. C'est trop facile de fredonner des chansons pour une jeune fille en robe jaune. Ça fait longtemps depuis la fête, et la chambre est en désordre. Les quatre rois de EMI, alors EMI, c'est la boîte des Beatles, en fait. Donc, les quatre rois d'EMI, c'est tout simplement les Beatles qui sont inclus dans la chanson, sont assis sur le sol seigneurial. Rien que ça. Il y a des oiseaux sur le trottoir et un valet à la porte. Il me rappelle un pingouin avec les cheveux rares et collés. Il y a du talc sur la lettre et le garçon d'anniversaire est là. En gros, c'est la fête.
Hein, si vous avez compris cette traduction,
c'est,
ne prenez pas la route.
C'est la fête londonienne de milieu des années 60. C'est The Party de Sellers. C'est ce genre de truc.
Ça me rappelle tes poèmes, Dave.
Hein, je demande un copyright.
Ouais, je crois.
Voilà, enfin bref, tout ça c'est pour donner un peu l'esprit aussi des Monkees au niveau écriture, parce que bientôt, comme on l'a dit, ils vont vouloir écrire eux-mêmes. Ils ont déjà commencé, ils ont inclus quelques petits morceaux par-ci par-là dans les albums, mais de plus en plus ils vont vouloir en faire, et c'est vraiment à cette époque-là.
C'est une lutte de tous les jours pour essayer de se faire, reconnaître en tant qu'artiste, en tant qu'artiste finalement.
Sauf que finalement, ce qui va payer, c'est que quand on a du succès, d'une certaine manière, tout est permis, et là ils vont réussir à avoir la tête d'un de leurs producteurs, un peu le gars qui gère
gère tout au sommet de la maison. Et ils disent, bah non, on veut qu'ils partent, c'est tout. Et là, ce qu'on peut qualifier d'actionnaire, bah, ils leur donnent raison, tout simplement, parce que tant qu'il y a du fric à la maison, il faut rappeler que le premier album, c'est plus de 5 millions d'exemplaires, le deuxième aussi, le troisième aussi. Ils se disent que tous les 5 mois, 5 millions d'exemplaires, on va pas non plus, voilà, bon, on va accepter, on va faire une concession, ils vont pouvoir écrire, ils vont pouvoir jouer des instruments qu'ils veulent et tout. Et donc, ça commence avec le quatrième album, beaucoup, qui est considéré vraiment comme le meilleur, souvent, des Monkees, en tout cas musicalement, qui s'appelle Pisces Aquarius Capricorn Engines Limited. Alors, le titre, en fait, c'est les signes du zodiaque de trois des quatre membres des Monkees. Et le dernier, c'est Jones, qui n'est pas un signe du zodiaque. Or, selon certains, c'est qu'il aimait pas le zodiaque, donc du coup, David Jones, il a juste mis son nom, mais en fait, il avait le même signe qu'un autre des Monkees, donc ils n'avaient pas à mettre deux fois le même signe. Voilà, pour l'anecdote.
On n'a pas parlé de leur série télé, en fait, ça parlait de quoi au
final ?
Non,
bah, c'était des petites aventures.
C'était quatre garçons qui avaient vaguement un groupe de rock.
Enfin, ils venaient au secours des faibles, des fois, un peu comme ça, des gens leur demandaient de l'aide, et ils arrivaient en sauveur de l'humanité rigolo, qui faisaient de la musique.
Un peu, si tu as connu la série Les Trois Stooges, c'est un peu pareil. Trois gentils garçons, un peu chacun, et puis ça tournait autour du même truc. Quoi.
Peut-être moins cynique, ouais, les Trois Stooges, moins
très,
anglais.
Très naïf,
quoi,
finalement. Ouais, ils se baladaient, des fois ils étaient déguisés. C'était assez court en plus comme épisode.
Après, les morceaux qui sont inclus dans leur série sont vraiment joués comme des clips. Là. C'est un peu le temps s'arrête et tout d'un coup, ils jouent des instruments, ouais, le cadre est léché et tout, pas de manière naturelle. Donc on comprend bien que c'est un véhicule pour la musique, la série aussi. Même si au début, finalement, ils voulaient des comédiens, très très vite, vu comme marchent les ventes de disques, bah, c'est l'inverse. La série, d'ailleurs, ne durera que deux saisons.
La série Périclite.
Voilà, très vite, la série.
Soixantaine d'épisodes. Hein,
voilà, soixantaine d'épisodes.
Très court, deux saisons. Faut dire après que si tu vois les images sur les, comme je disais tout à l'heure, hein, sur les doublages, sur le playback, c'est assez catastrophique. Ça joue un peu n'importe où, n'importe comment. Il y en a un, il est au milieu avec un tambourin, je sais pas trop pourquoi. Très certainement parce que il savait pas jouer du tambourin. Lui, c'était le guitariste de la bande, mais comme il était, il passait pas très bien comme guitariste, on l'avait foutu là. Enfin bref. Mais c'est vrai que musicalement, par contre, il y a quelque chose qui va naître. À faire plus que naître et qui va faire que les Monkees vont avoir une vraie vraie carrière musicale. On l'a dit tout à l'heure, 4 ans grosso modo, 4 ans des albums des Monkees, et après plusieurs reformations, et à chacune de leurs reformations ils vont avoir du succès. Ça va relancer les ventes de leurs albums, preuve que ce qui pouvait paraître une vaste fumisterie, une grosse plaisanterie au départ, va s'avérer être un groupe de rock, un groupe de musique tout à fait respectable et vraiment au niveau des meilleurs de l'époque.
Et d'ailleurs très vite respecté par leur père, parce qu'on a une image aujourd'hui un peu moqueuse des Monkees en se disant voilà, c'était des rigolos, tout ça, mais les musiciens de l'époque les considéraient vraiment comme des pères, enfin c'est pas quelque chose, ils se moquaient pas d'eux, et ils ont des goûts très éclectiques dès le début. Par exemple, ils vont utiliser parmi les premiers au monde le Moog, le fameux synthétiseur Moog qui ne sera utilisé par les Beatles qu'un an plus tard, preuve que on peut être avant les Beatles, des fois, de temps en temps.
Non.
Ça arrive. Si, ça arrive. Voilà, donc, ils étaient en avance, ils étaient, des fois, voilà, ils sentaient l'air du temps, ils étaient intéressés par aussi la musique indienne, toutes sortes de choses. Ils étaient intéressés par Frank Zappa, ils l'ont invité à venir dans leur émission, Frank Zappa qui vient chez Monkees. Tim Buckley, dont on parlait dans Rock'n'Roll Diaries, qui est venu à un moment, il était au creux de la vague complet, il faisait du jazz avec que des morceaux qui duraient 20 minutes désaccordés. Et ben, il venait chez les Monkees pour jouer ces morceaux, parce qu'ils appréciaient.
Et c'est un peu ce qui va précipiter leur perte finalement, parce que ce qu'on attendait d'eux à la base, c'est-à-dire faire cette musique un peu simplette,
gentillette,
gentillette, voilà, gay, en étant les joyeux lurons de la bande, mais eux, ils vont vraiment montrer qu'ils ont une volonté artistique, qu'ils ont envie de changer, de faire des choses. On l'a dit tout à l'heure, en essayant de nouvelles techniques, en se lançant dans le cinéma, en essayant un peu de sortir de cette image de gentil groupe de garçons. Voilà, et finalement c'est un petit peu ce qui va finir par perdre leur public et les perdre eux, mais si tu regardes, hein, Brian Wilson,
Des Beach Boys.
Des Beach Boys, il a été inspiré, il dit clairement qu'il a été inspiré pour sur certains morceaux.
Ça se voit.
par les Monkees. Kurt Cobain était fan des Monkees.
Oui. On écoutera un morceau à la fin, Stepping Stone, qui est une sorte d'ancêtre du rock garage, qui est très proche des premiers Kings et ce genre de choses, et que Nirvana jouait sur scène à ses débuts, et pas pour se moquer, qui était vraiment, qui était un hommage.
Michael Stipe avait dit qu'il refusait que REM rentre au Hall of Fame, donc au panthéon de la musique rock, tant que les Monkees n'y avaient pas été acceptés. Bon, finalement, ils sont rentrés REM.
Ça se refuse pas.
Qui, REM ou les Monkees?
REM. Non, mais les Beatles aussi étaient... John Lennon était un fan des Beatles.
Oui, des Monkees surtout.
Des Monkees.
Oui, il s'aimait bien aussi.
Il s'aimait bien aussi.
McCartney
est monté. Était dans
et lui aussi, il s'aimait bien.
Il s'aimait bien. McCartney, quand ils ont eu des reformations des Beatles, était sur scène aussi.
Et Ringo.
Ringo, lui, il aimait bien tous les autres. Ringo, tout le monde l'aimait aussi. Ouais.
Hein, pourrait-on écouter un morceau ?
Oui, voilà. Juste pour revenir, bon, on donne souvent des chiffres dans nos Rock'n'Roll Diaries, mais là, il y en a quand même qui donnent le vertige, parce que si on se place par rapport à aujourd'hui, où on a tendance à oublier comment ça allait vite à l'époque, c'est aussi pour ça que le succès montait vite et retombait très vite. Mmh. Aujourd'hui, un artiste sort un album, 3 ans, 4 ans après, il sort un deuxième, puis éventuellement 5 ans après, etc. Là, entre octobre 66 et novembre 67, donc il s'est passé un an, ils ont sorti 4 albums et 4 numéro 1.
Bah après, ils écrivaient pas la musique non plus.
Si, dès le troisième, ils commencent à le faire. Donc,
Au départ, ils écrivent pas, mais après, ils commencent à écrire.
Et puis, les groupes d'aujourd'hui n'écrivent pas forcément leur musique. Hein. Madonna n'a pas écrit grand-chose dans sa vie. Même Michael Jackson a pas
beaucoup
écrit.
Quand bien même ils n'écrivent pas la musique, ils s'étaient de plus en plus impliqués dans l'écriture des textes.
Heureusement que Johnny Hallyday écrit ses chansons. Hein.
Non. On va peut-être écouter un autre morceau, qui n'est pas d'eux, là, pour le coup. Hein. Pour le coup, ce n'est pas écrit par eux, mais par le fameux duo de compositeurs... Non, Goffin et King, pas du tout. C'est Harry Nilsson, un autre copain de la bande et copain de John Lennon, notamment Harry Nilsson, qui leur a pondu Cuddly Toy.
Voilà, et après, on vous promet, on retrouve Dave. Choo-choo train that was left out in the rain the day after Santa came. You're not the only charity light that was left in the night and gave up without a fight. You're not the only cuddly toy that was ever enjoyed by any boy. You're not the kind of girl to tell your mother the kind of company you keep.
pour ce morceau. Et on parlait des acquaintances avec d'autres groupes de musique. Comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Peter Tork a joué par exemple sur Wonderwall Music de George Harrison. Il jouait du banjo.
Son album solo de 68 expérimental.
Exactement. Et lors du fameux week-end perdu de
Lennon.
De Lennon, plusieurs membres des Beatles et des Monkees traînaient ensemble, notamment écumer un petit peu les endroits
interlope.
À Los Angeles.
Voilà, exactement. Exactement, donc voilà, c'est pour dire que finalement, ces gens qu'on a pris pour de joyeux illuminés et des fifrelins ne l'étaient pas tant que ça. Ils vont même avoir.
C'est vrai, c'est beau, fifrelin.
C'est ça,
ça fait, hein. C'est bien. Ça fait un peu prénom Grolande. Espèce
de fifrelin. Je ne sais même plus si c'est une insulte, du coup.
Ça doit l'être.
Ouais, c'est un petit peu. Non, les fifrelins.
Non.
Joueur de fifre, quoi.
C'est ça, exactement. Joueur de fifre.
Forcément. Et le fifre est une sorte de flûte.
Une sorte de flûte provençale.
Espèce de joueur de flûte.
C'est provençal, mais ça n'a absolument rien à voir avec les Monkees, puisque le fifre n'était pas parmi les instruments des Monkees.
Ça dépend.
Ça dépend. Ils vont sortir, on en a parlé tout à l'heure, donc ce qui va être considéré comme leur sommet artistique, Pisces, Aquarius, Capricorn and Jones Limited, qui va être donc numéro 1, peu.
Oui, et c'est leur dernier d'ailleurs.
Et pour cause, et c'est leur dernier. C'est aussi donc la fin d'une année qui est l'année 1967. Qui va être vraiment l'apogée de la carrière des Monkees à tous les niveaux, que ce soit donc musicalement avec ce morceau, sur scène parce qu'ils vont multiplier les tournées, ils vont avoir gain de cause, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir de plus en plus donner leur avis musicalement et proposer leurs chansons à eux, écrites et composées par eux et pour eux, ils vont pouvoir les jouer aussi, que ce soit sur scène ou pendant l'émission de télé, qui continue à avoir un succès, puisque donc c'est la deuxième saison. En même temps, ce qui devait arriver arriva. Le succès aidant, chacun veut essayer un peu de donner sa propre direction à ce qui se passe au sein de l'émission. Il va y avoir quelques tiraillements.
Aïe, aïe, aïe.
Et on va doucement glisser vers la fin des Monkees qui va discrètement filer pour finir. Bon, on va en parler un peu plus loin avec Fabien. Les Monkees vont de 4 vont passer à 3 puis 2 puis plus personne finalement. On va peut-être
ce qui est peu
pour un groupe, hein, finalement. On va peut-être s'écouter
une autre chanson,
Porpoise avant d'attaquer la lente descente aux enfers.
Porpoise qui est issu du sixième album des Monkees, déjà le sixième album. Oui.
Et donc on a retrouvé Dave. Hein,
salut Dave. Dave.
Oui.
Bonjour.
Oui.
Les Monkees.
Très bien.
Oui, ben voilà. The Monkees.
Il est vivant. Thank you.
Aïe, 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 la partie que j'aime le moins, la lente descente aux enfers. Ah, on l'a à chaque fois hein, dans cette émission.
Et à chaque fois, c'est moi qui m'y colle, hein, c'est curieux. Hein,
vous noterez c'est bizarre. Que, on a fait une émission grand public, qu'on n'a pas parlé ni de drogue, ni d'alcool, ni de sexe.
Oui, et oui. On risque de ne pas en parler jusqu'au bout.
C'est vrai.
On va parler de mort à un moment donné, ouais, mais bon, bah, ça arrive.
C'est des choses qui arrivent, c'est voilà. Une mort naturelle en plus.
Oui, en plus, elle est faible. Hein. Faible. Ouais. Vraiment, enfin, mort naturelle, cancer comme tout le monde.
Oui, vraiment. Mais bon. C'est limite décevant.
Limite, limite.
Oui, je vais m'en aller.
Bah oui. Ah, Dave, tu es là.
Il faut dire que Dave est allé faire pipi pendant la pause, ouais. Donc il va...
Oui, il était aux toilettes.
Vachement. On t'offrira une autre pause tout à l'heure, il y aura encore des morceaux, donc si tu veux y retourner, pas de problème.
Ouais, et pour revenir sur le morceau d'avant, ça se sent que Sgt Pepper est sorti. Hein.
Oui, voilà, c'est plus ample dans la production, on sent que voilà, c'est plus sérieux, entre guillemets, ça se veut.
On est quand même à l'antithèse du morceau qu'on a écouté au début, qui était l'intro de l'émission.
Salut,
là,
c'est les Monkees, waouh.
Hey, hey, ouais, the Monkees, mm. c'est quand même totalement autre chose.
Voilà, et ça notamment parce que c'est extrait, donc ça sort en 68, là, c'est le sixième album qui s'appelle Ed. La chanson dont qu'on vient d'écouter. Et en fait, c'est une musique de film, carrément, parce qu'entre-temps, non seulement ils ont écrit leur musique, joué, etc., mais ils veulent aussi, certains, jouer la comédie pour de vrai, dans des vrais films. Il se trouve qu'un des producteurs, dès le début des Monkees, s'appelle Bob Rafelson, qui écrira plus tard, qui réalisera Five Easy Pieces, 5 pièces faciles, et qu'il est très pote avec notamment Jack Nicholson, qui va bientôt jouer dans Easy Rider et le produire. Et donc, il coquine un petit peu pour faire un film qui s'appelle Ed, qui sera un four total là, pour ouais. C'est la première déculottée des Monkees, Ed. Et du coup, la BO,
c'est-à-dire que le problème de Ed, c'est que c'est un peu barré aussi.
Enfin, oui, voilà, c'est dans l'esprit c'est 68. Là, c'est pour 68. Le coup, il y a un peu de drogue peut-être. Hein,
ouais, c'est possible. Alors, on est passé effectivement de des Monkees. Ils ont effectivement suivi un peu l'évolution des Beatles. Hein, un peu
à échelle Beatles, on est à l'album blanc, là. On est au voyage en Inde, etc.
Voilà, donc bah bon, c'est un petit peu leur album blanc, eux. L'album blanc des Monkees, sauf qu'on attend peut-être pas ça. Le public attend peut-être pas ça des Monkees.
Ah bah, plus, en tout cas.
Et du coup, ça fait, le film fait un four. Les albums, ça commence à être compliqué.
Et l'album, là, oui, c'est une BO, et elle a l'inconvénient, entre guillemets, parce qu'ils sont jusqu'au boutiste, du coup, ils sortent une BO avec 6 morceaux seulement, alors pour appâter le challenge, c'est pas génial, et entre, il y a des dialogues de film. Donc, autant dire que pour le grand public, ça passe pas trop, donc leur album, pour la première fois, c'est une petite déculottée, c'est 45e. Ouais. C'est pas minable, mais voilà, 45e...
Pour eux qui étaient habitués au numéro 1, c'est un peu pas terrible.
Et malheureusement, pour eux, entre guillemets, c'est que le début. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre temps, déjà, Ed, il n'y a pas Peter Tork qui participait. Il est parti entre-temps à l'album précédent, The Birds, The Bees and The Monkees, qui n'avait fait que troisième, entre guillemets. Peter Tork, il est parti tout simplement parce qu'il en avait marre d'être pris pour un pantin, sauf qu'il devait dénoncer son contrat pour partir, donc ça lui a coûté une fortune, un petit peu.
$150,000 par an
pour partir.
Alors, $150,000 par an, ça fait à peu près quasiment $1 million aujourd'hui.
Oui. Pendant combien d'années ?
4 ans.
Donc ça coûte de partir, c'est qu'il voulait vraiment partir s'il a payé ça. Mmh. Et sagement, Michael Nesmith, qui veut partir aussi, se dit j'attends la fin du contrat. Donc il reste, il fait plus grand chose, tout ça. Il partira finalement en 70. Il attendra un peu et c'est finalement plus sage. Entre temps, il y a eu des albums qui eux n'ont pas eu beaucoup de succès. De toute façon, il y a eu 69 Instant Replay qui fait 32e et il n'y a pas des morceaux mémorables trop. Il y a The Monkees Present qui fait seulement 100e en 69. En 70, ils continuent quand même sur leur cadence infernale, l'album Changes. Alors là, Changes,
Nessie. Non, Changes, c'est Bowie.
Mais Changes de Bowie, c'est un peu plus tard. Ah. Et ouais. Et Nesmith est déjà parti, Tork est parti, ils sont plus que deux en fait.
C'est
un duo.
C'est Doolins et David Jones.
Voilà. Et là, ils font 152e position dans les charts. Ouh. Donc là, autant dire qu'ils sont.
J'ai réveillé Dave. Dave, n'oublie pas le contrat que tu as signé, hein, $150,000 par an.
Ça sent un petit peu le sapin pour les Monkees.
Ils sont noyés dans la masse. Et ils continueront après tant bien que mal. Alors ils vont se séparer après le départ de Nesmith en 70. Chacun va à ses projets solo, etc. Il y en a qui joueront dans des vrais films. Celui qui aura la carrière la plus remarquable entre guillemets, c'est Mike Nesmith parce qu'il aura une vraie carrière solo avec des tubes aux États-Unis. Il jouera dans des vrais films. Il aura une carrière. Et surtout, il a créé l'ancêtre de MTV, ce qui n'est quand même pas rien.
C'est-à-dire qu'il a tourné des clips vidéo à la fin des années 70, à l'époque où ça ne se faisait pas, et il a vendu le concept clé en main à une chaîne de télé qui ensuite a inspiré tout simplement MTV, qui était une usine à clips. Il a eu le bon goût aussi d'acheter une société de production, tout ça, qui l'a fait racheter tout un tas de choses, ce qui fait qu'il est devenu, dans les années 90, le premier diffuseur de films vidéo aux États-Unis, je ne sais plus combien de millions d'exemplaires. Voilà, alors...
Et puis surtout, surtout MTV, on le verra plus tard va rediffuser les épisodes des Monkees.
Voilà, et MTV lui donnera de l'argent dans des procès aussi, lui-même sera dans des procès, qui gagnera ou il partira avec des sommes comme 50 millions de dollars pour tout un tas de choses. Et ses parents déjà, parce que là on se dit il s'éloigne un peu du secteur de la musique, il faut savoir que ses parents avaient déjà des destinées un peu étranges, je crois qu'il y en a un qui était prof et l'autre je sais plus quoi, mais c'est eux qui ont inventé le Tipex par exemple, pour dire une marque, le Blanco, c'est les parents de Mike Nesmith qui l'ont inventé, donc ils ont fait fortune avec ça, il était déjà un peu aidé entre guillemets avant de commencer, enfin bref.
Les Monkees finalement vont survivre chacun de leur côté plus ou moins bien. Ils vont se reformer plusieurs fois, notamment au milieu des années 80, vers 85-86, quand MTV, puis Nickelodeon et deux chaînes américaines vont repasser les aventures des quatre petits singes. Ça va avoir des conséquences sur les ventes d'albums qui vont repartir. Ils vont refaire des tournées, se reséparer. Remonter sur scène,
des fois deux, des fois trois, rarement quatre, mais ça arrive.
Voilà, ils vont poursuivre tout ça jusqu'à la mort de David Jones,
en 2012, qui est mort, c'était très récemment,
en 2012. Aujourd'hui, il y a encore un projet de reformation des trois Monkees qui restent.
Sachant que entre-temps, il y a des producteurs dans les années 80 qui ont lancé des New Monkees. Ça s'est cassé la gueule au bout de 4 semaines, ça fait un four total. Donc bon, les Monkees sont éternels finalement.
Allez, si nous écoutions ce groupe. Allez,
oui, alors on écoute un morceau de 69, Listen to the Band.
Écoutons ce groupe, c'est énorme. Merci, merci. Quoi, une émission d'une heure pour Rock'n'Roll Diaries ? Mais qu'est-ce que c'est, ça, Fab ? C'est
un
énorme.
Scandale.
C'est énorme.
Scandale.
Allez, les conseils vite fait, qu'il y a Va comme je te pousse qui nous pousse.
Le best-of.
Ok.
Ça suffit pour
les c'est tout.
C'est bien.
Génial.
Allez. Dave n'est pas d'accord ?
Ah, Dave. Alors.
Je suis pas d'accord.
Dave, okay. Tu fais déraper l'émission.
Non, c'est la merde. Tout le monde est à la bourre.
Tu sers à quelque chose, non?
C'est vrai. Très bien. T'as bouffé des gâteaux et bu du thé.
Le dernier train pour Clarksville.
Allez, ciao les gars, c'est les vacances, on se voit pas pendant deux mois, on se retrouve en septembre avec, on ne sait pas quelle émission, on verra, ça sera la surprise.
Pas. Ou pas d'ailleurs.
Au revoir.
Et au revoir.
Tricks that you used on me. You're reading all them high fashion magazines. The clothes you're wearing.